Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le mouvement de la renaissance du Cameroun dénonce l'arrestation de son leader Maurice Kamto et de plusieurs autres membres du parti d'opposition, mais le pouvoir fustige la manifestation de l'opposition.
Je suis dans une république où l'autorité judiciaire ne devrait pas voir ses décisions être remises en cause comme ça parce que, tout simplement, elle n'agrée pas tel ou tel parti.
Des milliers de personnes ont fui en deux jours la ville de Ran dans le nord-est du Nigeria pour échapper à Boko Haram. Manifestation au Zimbabwe d'avocats pour dénoncer ce qu'ils appellent une militarisation de la justice. L'ONU évoque un bilan de 40 morts dans des manifestations contre le régime de Maduro au Venezuela depuis la semaine dernière. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, en Côte d'Ivoire, le député de Fresco, Alain Lobognon, proche de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, a été condamné à un an de prison ferme et 300 000 francs CFA d'amende pour un tweet dans lequel il accusait le procureur de vouloir faire arrêter un de ses collègues députés. Direction le Mali où deux militaires ont été tués et 10 autres blessés aujourd'hui dans une attaque par des terroristes présumés dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué. C'est le poste de l'armée dans la localité de Tarkent, près de Gao, qui a été visé. Au Nigeria, plus de 30 000 personnes ont fui Ran, ville frontalière avec le Cameroun, pour échapper au groupe Boko Haram qui a pris le contrôle de la ville. Plus de détails avec Raissa Girondin.
Toute la population paniquée a fui pour tenter d'échapper à la mort, a déclaré le porte-parole du HCR, Babar Balok. La panique fait suite au retrait, dimanche, des troupes camerounaises déployées après l'attaque du 14 janvier qui avait fait 14 morts. Lundi, les insurgés sont entrés dans la ville sans rencontrer de résistance. Les soldats nigérians avaient eux aussi décidé de se retirer. Selon Walid Abdallahi, un civil qui a fui vers le Cameroun voisin, il n'y a plus un seul habitant à Ran. La ville est actuellement sous le contrôle de Boko Haram qui a incendié les abris de fortune des déplacés. Les combattants islamistes tiendraient deux postes, l'un dans la ville et l'autre à la frontière, et abattent quiconque qui essaie de traverser la frontière, selon une source qui a voulu garder son anonymat par crainte de représailles. Cette escalade de violence soulève des questions sur la manière dont les élections du 16 février se tiendront dans les zones touchées par les combats. Plus de 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.
Au Zimbabwe, des centaines d'avocats ont marché à Harare pour réclamer justice pour les personnes arrêtées et détenues pendant les manifestations contre la hausse des prix du carburant. Nous faisons le point avec Yakuba Ouedraogo.
Certains des avocats arboraient des pancartes avec les inscriptions « La justice n'est pas la politique, non à la militarisation de la magistrature ». D'après la police, plus de 1000 personnes ont été arrêtées depuis la mi-janvier. Le pasteur et opposant Ivan Mawarire a été remis en liberté sous contrôle judiciaire aujourd'hui. Les manifestants avaient appelé à 3 jours de grève après l'augmentation des prix des carburants. Les avocats se disent incapables de défendre des centaines de détenus. Près de 50 personnes ont été acquittées et 50 autres condamnées sans avoir été défendues par des avocats. Selon les groupes de défense des droits de l'homme, au moins 12 personnes ont été tuées. La police fait cas de 3 morts. Le gouvernement accuse le MDC d'être derrière ces manifestations, ce que nie son chef Nelson Chamisa. Le président Emmerson Mnangagwa s'est engagé à faire mener des enquêtes sur la répression des manifestations. L'opposition dit ne pas y croire. Hier, les travailleurs ont donné 48 heures au gouvernement pour répondre à leurs demandes, faute de quoi ils menacent de lancer un appel à une nouvelle grève.
Au Soudan, le chef des services des renseignements a ordonné la libération de toutes les personnes détenues depuis le début du mouvement de contestation contre le président Béchir en décembre. Selon des ONG de défense des droits de l'homme, plus de 1000 manifestants, leaders de l'opposition, militants et journalistes ont été arrêtés par le Service national du renseignement et de la sécurité. L'ONU a condamné les meurtres d'au moins 10 enfants ces dernières semaines dans une province du sud de la Tanzanie. Les autorités soupçonnent qu'il s'agisse de meurtres rituels. La police mozambicaine a arrêté 3 Ougandais présentés comme des chefs des groupes qui sèment la terreur dans le nord du pays. 3 personnes, dont une femme, sont interrogées dans un commissariat de la ville de Nampula. La région du Cabo Delgado, à majorité musulmane, est le théâtre depuis octobre 2017 d'une série d'attaques meurtrières visant la population et les forces de l'ordre attribuées au groupe armé Chebab. Le président français Emmanuel Macron a terminé ce mardi sa visite en Égypte par un nouvel entretien avec son homologue Abdel Fattah el-Sissi. Hier, les deux hommes ont exprimé leur désaccord sur la question des droits de l'homme. Emmanuel Macron a aussi appelé au dialogue entre les religions durant des rencontres avec les autorités musulmanes et coptes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, la Chine et la Russie ont dénoncé les nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela. Des sanctions qui resserrent l'étau sur le président socialiste Nicolas Maduro à la veille de nouvelles manifestations à l'appel de l'opposant autoproclamé président Juan Guaido. Les précisions de John Linden.
Les réactions de Pékin et Moscou ont été provoquées par les déclarations de Steve Mnuchin. Le secrétaire américain au Trésor a indiqué mardi que les États-Unis envisageaient d'appliquer des sanctions supplémentaires pour faire pression sur le Venezuela. Les autorités légitimes du Venezuela considèrent ces sanctions comme illégales et nous nous joignons à ce point de vue, a fustigé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, accusant Washington d'ingérence flagrante. Nous allons défendre nos intérêts dans le cadre du droit international en utilisant tous les mécanismes à notre disposition, a-t-il ajouté. La Russie a investi des milliards de dollars dans le pétrole et les armes au Venezuela. Principal créancier de Caracas, la Chine s'est elle aussi dite opposée à des sanctions unilatérales via le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Déterminé à provoquer le départ de Nicolas Maduro, le Parlement vénézuélien, dirigé par l'opposant Juan Guaido, 35 ans, a prévu de se réunir ce mardi pour débattre d'un plan de sauvetage du pays et de la possibilité d'élections libres et transparentes.
Le chef du renseignement américain Dan Coats a affirmé aujourd'hui que le groupe djihadiste État islamique contrôlait encore des milliers de combattants en Irak et en Syrie. Dans un rapport remis au Congrès, M. Coats précise que le groupe conserve 8 branches et des milliers de partisans dispersés à travers le monde. Suite de l'enquête russe aux États-Unis, l'ex-conseiller et ami de Donald Trump, Roger Stone, a plaidé non coupable de mensonges et autres infractions devant une juge fédérale de Washington. Il est soupçonné d'avoir menti au Congrès sur ses contacts avec l'organisation WikiLeaks au sujet d'emails piratés dans le camp démocrate lors de la présidentielle de 2016. Vague de froid historique dans le nord des États-Unis avec des chutes de neige et des températures polaires de moins 50 degrés Celsius. Ces conditions météo ont provoqué des perturbations dans le trafic aérien et dans les administrations. Morgane Guériec.
L'alerte au grand froid a été donnée dans plusieurs états du Midwest, du Dakota du Nord à l'Ohio, et qui pourrait connaître les températures les plus basses depuis 2 décennies. La vague de froid sera accompagnée de fortes rafales de vent jusqu'à moins 50 degrés Celsius dans le Dakota du Nord, et qui pourrait provoquer des gelures sur la peau en quelques minutes. À l'aéroport O'Hare de Chicago, il a neigé quotidiennement 13 jours d'affilée, un record. Plus d'un millier de vols ont déjà été annulés dans les 2 aéroports de la 3e ville des États-Unis. Le froid couplé à la neige tombée en abondance a provoqué dès lundi la fermeture des écoles dans le Wisconsin, le Michigan, l'Indiana, l'Illinois et l'Iowa, alors que les églises et les centres sociaux ont annulé leurs activités périscolaires. Dans le Wisconsin, les tribunaux et la plupart des administrations ont fermé dès lundi. La neige tombe jusqu'en Géorgie, qui est pourtant un état du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie et la capitale Washington ne seront pas épargnées.
Au Pakistan, la Cour suprême a rejeté le dernier recours contre l'acquittement de la chrétienne Asia Bibi, accusée de blasphème. Madame Bibi, condamnée à mort en 2010, puis acquittée en octobre 2018, peut désormais quitter le Pakistan où elle vit sous haute protection, étant menacée de mort par des extrémistes. En Syrie, au moins 11 personnes, dont 9 civils, ont été tuées dans des bombardements du régime sur Maharet al-Nouman, une ville de la province d'Idleb, malgré l'accord russo-turc sur une zone démilitarisée dans la région. Le gouvernement palestinien basé à Ramallah a soumis sa démission au président Mahmoud Abbas, c'est ce qu'a indiqué l'agence officielle Wafa. Les difficultés du gouvernement palestinien sont l'une des manifestations des divisions dévastatrices qui sévissent depuis plus de 10 ans entre d'une part l'autorité et le parti laïque Fatah qui la domine et d'autre part le Hamas. Enfin, à 2 mois du Brexit, la première ministre britannique Theresa May a annoncé aujourd'hui son intention de rouvrir les négociations avec l'Union européenne pour trouver un accord de retrait soutenu par une majorité de députés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
L'Angola prépare un retour sur les marchés obligataires après la signature d'un accord d'aide de 3,7 milliards de dollars avec le FMI. Il espère aussi lancer cette année un programme de privatisation d'une durée de 3 ans. Sa monnaie, le Kwanza, a chuté de plus de 40% l'année dernière, tandis que ses recettes ont augmenté et que les réserves internationales sont tombées à 11,1 milliards de dollars, son plus bas niveau en 7 ans en décembre. Le deuxième producteur de pétrole d'Afrique a des besoins de financement d'environ 3,5 milliards de Kwanza cette année et espère exploiter les marchés internationaux pour obtenir une partie de cet argent. La Banque centrale du Kenya déclare que le pays a la possibilité de refinancer sa dette et de réduire les coûts de service de la créance en allongeant les profits de maturité. Cette dette s'élevait à 56,5% du PIB en septembre. Selon le gouverneur de la banque, l'économie kényane devrait connaître une croissance de 6,3% cette année par rapport à environ 6,1% en 2018, tirée par l'expansion de l'agriculture et des services. Terminons avec l'Arabie Saoudite, première économie du monde arabe qui veut mobiliser 427 milliards de dollars d'investissement dans les secteurs de l'industrie, des infrastructures et des services afin de réduire sa dépendance du pétrole qui est à la merci des fluctuations. L'Arabie a déjà signé 37 accords de 55 milliards de dollars avec des investisseurs étrangers et locaux. Plusieurs autres accords seront signés visant à assurer des résultats dès 2019.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
La Côte d'Ivoire est finalement d'accord pour organiser la CAN 2023.
Oui, c'est le président de la Confédération africaine de football qui l'a annoncé au terme de sa rencontre à Abidjan avec le président Alassane Ouattara. Écoutons Ahmad Ahmad.
Aujourd'hui, je suis venu ici et je remercie sincèrement le chef de l'État de la Côte d'Ivoire d'avoir pris en compte cet aspect de solidarité que allons soutenir ce glissement pour que 2021, la CAN sera au Cameroun. Ils sont à 80% des réalisations aujourd'hui. Nous sommes des Africains. Il y a le principe des NES aussi. Et la Côte d'Ivoire en 2023 et en 2025, la Guinée sera le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, 2021, 2023 et 2025.
Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, au micro de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara. La Fédération ivoirienne de football avait auparavant saisi le tribunal arbitral du sport contre le décalage de sa CAN en 2023 en lieu et place de 2021. En principe, la FIFA devrait retirer ce recours qu'elle avait déposé devant le TAS.
De son côté, les Comores confirment leur recours au TAS.
C'est officiel, la Fédération de foot des Comores a déposé une procédure d'appel auprès du TAS contre la décision de la CAF de refuser d'exclure le Cameroun de la CAN 2019 après lui avoir retiré l'organisation, a écrit sur son compte Twitter Ben Amir Sahadi, manager général de la sélection comorienne. Alors que le Cameroun est toujours en lice pour la CAN 2019, les Comores s'estiment lésés par l'absence de sanctions sportives à l'égard des Lions Indomptables. Ils réclament l'application de l'article 92 du règlement de la CAN qui prévoit, entre autres, la disqualification du pays s'étant vu retirer l'organisation. La CAF a décidé de ne pas suspendre le Cameroun qui a perdu son statut de pays hôte. Pour le moment, Camerounais et Comoriens se disputeront la qualification sur le terrain en mars prochain à Yaoundé lors de la 6e et dernière journée
des éliminatoires. Pour se qualifier, les Koilankans doivent vaincre les Lions indomptables avec 2 buts d'écart.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Clairement Azibour, toujours avec vous pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Cameroun, l'arrestation de l'opposant Moïse Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est largement commentée. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle d'octobre dernier, dont il revendique toujours la victoire, il a été arrêté lundi soir à Douala. Son parti avait appelé à des marches contre la réélection de Paul Biya. Samedi, 117 personnes ont été arrêtées dans plusieurs villes. De nombreuses ambassades du Cameroun à l'étranger ont également été saccagées. John Lyndon a joint à Yaoundé Célestin Bedzigui, président du parti de l'Alliance libérale, une formation proche du pouvoir.
Monsieur Kamto s'est porté candidat à l'élection présidentielle, une candidature qui a été acceptée et validée par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, après d'ailleurs qu'il ait déposé des recours, a proclamé des résultats faisant de Monsieur Biya le vainqueur de l'élection présidentielle. Mais au lieu de se plier à ces décisions du Conseil constitutionnel, il est plutôt entré dans une logique de négation ou de déni ou de refus de reconnaissance de cette victoire et se proclamant lui-même président du Cameroun et invitant les populations à se soulever contre une décision prise par une institution légale reconnue par lui-même, ce qui fait que le comportement qu'il est est considéré par les autorités comme étant subversif et le place pratiquement en fait presque hors la loi.
Alors si Maurice Kamto se considère comme président élu, c'est qu'il pense que la victoire lui a été volée.
Oui, mais c'est ce qui est tout à fait regrettable parce que, comme je l'ai dit, il a déposé la candidature que le Conseil constitutionnel a validée. Il a déposé un recours après résultat devant le Conseil constitutionnel qui a rendu une décision. Et comment peut-il dire aujourd'hui que la victoire lui a été volée alors même qu'elle a été proclamée par une décision judiciaire? Vous savez, dans un pays, dans une république où l'autorité judiciaire ne devrait pas voir ces décisions être remises en cause comme ça parce que, tout simplement, elle n'agrée pas tel ou tel parti. Et malheureusement, M. Kamto, qui est un juriste internationalement reconnu, ne semble pas adhérer à cette vision des choses. Et comme je l'ai dit, il se met hors la loi.
Alors, on a vu ce week-end des partisans, justement, de Maurice Kamto manifester à travers le monde. Beaucoup d'ambassades camerounaises à l'étranger ont été envahies. Comment expliquez-vous cela?
Oui, mais ce qui se passe est absolument regrettable. En plus d'être scandaleux, parce que, comme vous le dites, l'ambassade du Cameroun à Paris a été vandalisée, celle d'Allemagne également, où pendant le week-end, des hordes ils sont entrés par effraction jusque dans les bureaux des ambassadeurs, ont détruit des documents, pris possession, ou se sont accaparés des documents aussi importants que les passeports et autres, au prétexte qu'ils étaient des soutiens de Maurice Kamto. Alors, de tels actes, de telles voies de fait ou autres actes de destruction ont été jugés absolument inacceptables par le pouvoir en place, y compris par les autorités des pays hôtes. C'est cette incitation à des actes de vandalisme comme cela qui a justifié l'arrestation de M. Kamto. Alors, nous nous demandons d'ailleurs, autrement, une grande partie de l'opinion demande tout simplement l'interdiction du parti de M. Kamto qui ne semble pas vouloir se plier aux règles de fonctionnement républicain qui doit régir la scène politique dans un pays comme le nôtre.
C'était Célestin Bedzigui, président du PAL, le parti de l'Alliance libérale.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Suite aux violences post-électorales de 2016 au Gabon, des familles de victimes réclament toujours justice. En visite à Washington, le porte-parole du mouvement Trop c'est trop, Johan Zoué, espère l'ouverture d'une autre enquête et la libération des prisonniers politiques. Au micro de Nathalie Barge, Johan Zoué se prononce d'abord sur l'absence prolongée du président Ali Bongo.
Ça a des vraies conséquences au quotidien parce que l'État ne fonctionne plus, les décrets ne sont plus pris, qu'ils soient des décrets de nomination ou même des décrets pour permettre le décaissement du budget de l'État. Donc ça pose un vrai problème parce que un pays ne peut pas fonctionner sans président de la République.
Mais alors vous, qu'est-ce que vous préconisez ?
Pour nous, la solution est simple, c'est de revenir à l'élection, réouvrir le contentieux électoral et dire la vérité.
Est-ce que vous pensez que ce serait possible ça ? Parce que bon, la Cour constitutionnelle s'était prononcée, comment revenir en arrière ? Vous voulez réouvrir un fichier électoral qui date de 2016 ?
Non, nous avons des précédents en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a permis au nouveau président d'être habillé de la légalité ? On a donc réouvert le contentieux électoral par des moyens juridiques qui existent dans notre constitution pour permettre à celui qui a remporté le plus grand nombre de voix d'intégrer la fonction officielle de président de la République. Qui a intérêt à ce que aujourd'hui le peuple gabonais se libère ? C'est toutes les questions que nous nous posons et c'est tout le ressentiment que ça commence à créer parce qu'on se rend bien compte, puisque Ali Bongo n'est plus là, pour nous c'est une évidence, aujourd'hui le système demeure. C'est bien la question que nous nous posons.
Quelle est votre réaction par rapport à la non-compétence de la Cour pénale internationale sur les violences post-électorales 2016 ?
Notre réaction est celle qu'on a eue avec ce qui s'est passé il y a quelques jours. Laurent Gbagbo a quitté, mais Laurent Gbagbo maintenu. Je crois que tout y est. Voilà, les peuples africains commencent à comprendre et à se dire, à juste titre, que la CPI était un organe de domination.
Oui, mais alors là, qu'est-ce que vous avez comme preuve ? Parce qu'on va de 3 morts à 300 morts, selon qui est-ce qui s'exprime par rapport à cela. Vous parlez de fausses communes. S'il y a des fausses communes depuis le temps, on n'aurait pas pu les trouver ?
C'est pas les Gabonais qui parlent de fausses communes, c'est l'enquête préliminaire de la CPI.
Qui, toutefois, s'est déclarée incompétente.
Oui, ce qui est intéressant avec la justice, c'est qu'avec le droit, il est précis. Le crime contre l'humanité, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est l'organisation pour le massacre qui est commis, pour les tueries qui sont commises. Là, en l'occurrence, c'était préparé, c'était un assaut organisé avec l'intention de tuer des jeunes gens qui n'avaient eu qu'un seul tort de croire en la démocratie, en l'alternance.
Alors, les prisonniers politiques aujourd'hui, comment vous vous y prenez pour les faire sortir ?
Nous venons en soutien à Bertrand Zibi, Landry Amir Washington, Hervé Mombo-Kinga et d'autres prisonniers politiques qui sont des prisonniers d'opinion. Madame, il faut se dire qu'en 2019 encore, on arrête des gens, on les maintient en prison, bientôt 3 ans, au-delà de la règle juridique de droit au Gabon, mais ils sont maintenus comme ça parce qu'ils ont exprimé une opinion contraire à celle du régime. Et nous allons user de tous les droits et les moyens de droit pour permettre à ce qu'ils soient libérés.
Joanne Zué, porte-parole du mouvement Trop c'est trop, il était en visite à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Des ministres, des experts et des partenaires des pays affectés par le conflit dans le nord-est du Nigeria sont réunis à Abuja pour trouver une réponse à la crise humanitaire dans la région du lac Tchad. C'est l'une des plus graves au monde et les besoins humanitaires sont estimés à 848 millions de dollars. Les détails avec Gilbert Tamba qui a suivi la conférence.
La région du bassin du lac Tchad est régulièrement la cible d'attaques sanglantes de Boko Haram depuis 2009. Dans le nord-est du Cameroun, dans la région du Diffa au Niger, dans le nord du Cameroun et dans l'est du Tchad, des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur village et d'autres ont été victimes des massacres, de la malnutrition et des maladies. Djibril Bintou est inspectrice générale des services au ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes du Niger.
Oui, le défi reste encore à relever parce que la guerre asymétrique n'est pas encore terminée. Quels que soient les efforts qui sont faits, du moment où la guerre asymétrique n'est pas terminée, donc il doit falloir toujours continuer à faire des efforts en ce qui concerne la prévention, la prise en charge et la réponse.
Au Nigeria, les Nations Unies estiment qu'il y a plus de 7 millions de déplacés dans les états de Borno, Adamawa et Yobe. Plus d'un million de Nigériens ont fui leur pays pour échapper à la violence et se sont réfugiés dans les pays voisins. Parmi ces pays, le Tchad qui continue jusqu'ici à enregistrer de nouveaux arrivants, selon son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous parle de la nécessité d'une synergie d'action pour résoudre la crise. Mohamed Abali Salas.
Je pense qu'il faut avoir un mécanisme de synergie d'action entre les gouvernements, c'est-à-dire les gouvernements des pays concernés et les partenaires humanitaires ou de développement. Il faut que tout le monde dise la même chose. C'est-à-dire des actions qui ne sont pas ensemble ne peuvent pas donner un impact, surtout sur ces problèmes aujourd'hui qui est devenu un problème pas seulement pour les pays concernés, mais c'est un problème du monde entier.
C'est pour faire face à la crise que le gouvernement du Nigeria, les Nations Unies et des partenaires sont réunis à Abuja. Objectif, lancer conjointement la stratégie de réponse humanitaire pour 2019-2021 et le plan de réponse régionale pour les réfugiés 2019-2020. Walker est le haut commissaire adjoint du HCR, chargé de la protection.
C'est extrêmement important de trouver des moyens de soutenir les communautés hôtes et les pays hôtes, comme le Cameroun, comme le Niger, comme le Tchad, qui ont reçu depuis des années des réfugiés du Nigeria. Alors, il y a plus que 230 000 réfugiés du Nigeria qui sont dans ces pays.
C'est au Nigeria en 2010 que le groupe militant islamiste Boko Haram est apparu, revendiquant l'instauration d'un califat dans le nord du pays. Les combattants de Boko Haram sont à l'origine de nombreuses attaques terroristes ayant déjà engendré la mort de plus de 20 000 personnes et des déplacements massifs de populations. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, certaines églises accueillent des immigrants en situation irrégulière. C'est le cas de Rosa Gutierrez-Lopez qui avait reçu l'ordre de quitter le territoire américain le 10 décembre dernier. Elle s'était alors réfugiée dans une église de Bethesda dans le Maryland pour éviter d'être renvoyée au Salvador et abandonner ici ses trois enfants américains. C'est un des derniers cas d'immigrants clandestins réfugiés dans un sanctuaire. Ce mouvement s'est développé depuis que l'administration Trump est entrée en fonction il y a 2 ans. Voici le reportage de Bill Rogers, le récit est de Lionel Gaïma.
À l'église universaliste unitarienne de Cedar Lane, c'est un dimanche matin typique. Les fidèles viennent écouter un message progressiste et l'appel à aider ceux qui sont dans le besoin. Surtout la salvadorienne sans papier qui vit dans ce sanctuaire, dernier espoir de Rosa Gutierrez Lopez.
Je suis convaincue que je pourrais rester ici pour me battre pour mes enfants. J'ai un garçon atteint de trisomie.
Officiellement accueillie lors d'une cérémonie dans l'église à la mi-décembre, Rosa Lopez s'est réfugiée ici lorsque les autorités fédérales lui ont ordonné de quitter le pays. Mère de 3 enfants, née aux États-Unis, elle demande l'asile pour fuir la violence des gangs au Salvador. Elle exprime son désespoir, les larmes aux yeux.
El niño que tiene síndrome,
Mon garçon trisomique ne sait pas que je suis dans cette situation. Mon garçon de 9 ans sait que je suis à cet endroit, mais ne comprend pas pourquoi. Ma fille de 11 ans le sait, mais elle me dit « Maman, tu nous manques, je veux que tu sois avec nous ». Je lui réponds que je ne peux pas, parce que si je sors de l'église, les services de l'immigration vont m'arrêter et m'expulser.
Hector Pérez Casillas est l'avocat de Rosa Lopez.
Je pense qu'elle et ses enfants courent un grave danger. Ils seront immédiatement pris pour cible, car ils savent qu'elle est aux États-Unis depuis longtemps, qu'elle a des enfants américains et que l'un d'eux est malade, ce qui en fait une cible particulièrement vulnérable.
Rosa est l'une des 50 personnes vivant dans des églises sanctuaires à travers le pays pour éviter d'être expulsé. Le nombre des congrégations protégeant ces immigrés clandestins est aussi passé de 400 en 2017 à 1100 aujourd'hui. Noel Anderson du Church World Service.
Il voit que des personnes sont en train de se déshumaniser et leur répond de par la foi, qui consiste à dire que nous devons traiter tout le monde comme des enfants de Dieu.
Les églises sanctuaires pouvaient craindre de raids, mais pour l'instant, les services de l'immigration respectent les directives interdisant aux forces de l'ordre d'entrer dans les églises, les écoles ou les hôpitaux. L'église de Cedar Lane ne pouvait rester sans rien faire. Révérend Abby Janamanchi explique.
Lorsque Rosa a pris contact avec nous et que nous avons entendu son histoire, nous avons estimé que nous devions faire quelque chose, gagner un peu de temps en attendant qu'une procédure soit engagée en justice.
Comme les procédures judiciaires sont souvent très longues, Rosa Gutierrez Lopez vivra environ 2 ans dans l'église et n'est jamais perdu espoir de trouver un jour une solution.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Jacques Thiraud. À la console, Dan Crafton. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous tout de suite, le RM Show, présenté par Roger Muntou. Excellente soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.